touchants volontaires emploient les moyens de la désobéissance civique non violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.
L'eau, la terre.
Bonjour, vous êtes sur CFM et vous écoutez Les Croissants des Croissants, un magazine d'écologie sans chichi.
Pas de déploiement de l'eau. La terre, on a un seul monde pour nos enfants, assurément.
Pour vos avis, commentaires, suggestions, vous pouvez écrire à lescroissantsdescroissants@gmail.com. Aujourd'hui, nous allons parler des abeilles. Nous entendons fréquemment que les abeilles sont nos meilleurs amis pour polliniser nos cultures, mais que malheureusement leur existence est mise à mal par notre guerre incessante contre le vivant. Que ce soit la dispersion de polluants divers et variés ou l'artificialisation. Comme souvent, par manque de connaissances, nous croyons le monde si simple alors qu'il est quelque peu plus complexe. Dit d'une autre manière, pour masquer notre inculture, nous attribuons à la nature des mécanismes simplistes alors que le monde est infiniment plus complexe et riche. Alors je vous propose de nous intéresser au monde passionnant des abeilles. Les abeilles sont apparues il y a environ 100 millions d'années. Au milieu de l'ère des dinosaures, ceux-ci ayant vécu de 250 à 66 millions d'années. Les premiers Homo sapiens sont apparus bien plus tard, il y a 400 000 ans environ. Les abeilles ont donc traversé de nombreuses difficultés, acquis une expérience sans précédent par rapport à la nôtre. Il existe environ 20 000 espèces d'abeilles sur Terre, dont 1000 en France. Elles sont rattachées à 9 familles principales. Il n'y a donc pas que l'abeille Apis mellifera, celle que nous connaissons le plus et qui existe depuis seulement 6 millions d'années et dont le miel nous régale depuis 5000 à 6000 ans. À l'époque, les hommes se perchaient dans les falaises à la recherche du précieux nectar, mais ils n'élevaient pas ces petits insectes. Ce n'est que plus tard, vers 2500 avant Jésus-Christ, que les premières ruches apparaissent faites de troncs évidés. L'abeille que nous connaissons n'est donc qu'une parmi des milliers. Il y en a des petites, des grandes, des solitaires, des espèces qui ne vivent qu'en colonie. Nous connaissons d'ailleurs assez bien une de ces abeilles, le bourdon, qui n'est certainement pas le mâle de l'abeille, mais une autre espèce d'abeille. Il vit sous terre, en colonie, d'environ 500 individus. Bien plus efficace d'ailleurs que notre abeille domestique en termes de pollinisation, il sort quasiment par tous les temps. Mais revenons à ce qui nous intéresse particulièrement. Comment nos abeilles fabriquent-elles le miel ? Tout le monde le sait, elles butinent. Elles récoltent le nectar des fleurs avec leur langue en aspirant environ 5 fois par seconde. Mais contrairement à ce qu'on dit souvent, elles ne font pas juste butiner le nectar des fleurs. Si l'on a du miel de sapin, c'est aussi parce que les abeilles récoltent les sécrétions sucrées des insectes qui eux-mêmes mangent la sève des arbres. Ces sécrétions, ce sont les petites gouttes que l'on voit sur le dos des pucerons élevés par les fourmis par exemple. Alors, maintenant que le miel est réalisé, il est mis dans un pot par l'apiculteur, eh bien, je l'ouvre, je plonge ma cuillère et je le mange. Mais je ne m'aperçois pas forcément de la richesse de ce précieux nectar. Savez-vous quelle distance les abeilles ont parcouru en butinant pour produire au final 2 kg de miel ? Il s'agit de centaines de milliers de kilomètres, environ 10 fois le tour de la Terre, ou encore la distance de la Terre à la Lune. Et ça, c'est juste pour 2 kg de miel. Alors ça rend le miel encore plus précieux et à consommer avec reconnaissance. Lors d'une animation sur le sujet, un enfant dit « Les abeilles, c'est pas aussi intelligent que nous les hommes. Vraiment ?» Alors déjà, c'est quand même sacrément persévérant une abeille. Et savez-vous que les abeilles, elles peuvent communiquer et pas seulement s'échanger quelques informations. Elles peuvent par exemple expliquer où se situe un champ de fleurs. Si le champ est à proximité de la ruche, elles tourneront. Cela suffit pour se faire comprendre. Simple, efficace. Par contre, si les fleurs sont éloignées, elles vont décrire des huîtres dont l'axe central par rapport à la verticale est l'axe exact entre le soleil et la direction à prendre. Et cela avec une précision d'environ 3 degrés. On sait donc dans quelle direction aller. Pour expliquer la distance à parcourir, elles vont faire vibrer leur arrière-corps à une fréquence proportionnelle à la distance, ou plus exactement au temps de vol, ce qui rend assez robuste le message, car il prend en compte le vent, les obstacles et ainsi de suite. Mais, me direz-vous, le soleil bouge dans le ciel, l'information devient donc rapidement périmée. Eh bien non, car l'abeille va adapter l'angle qu'elle montre aux autres abeilles au fur et à mesure, en prenant en compte la course du soleil dans le ciel. Grâce à son horloge interne, elle sait prédire la position exacte du soleil. Et ce n'est pas tout. Si par un temps couvert, vous prenez une abeille, la mettez dans une boîte à chaussures, puis l'emmenez à quelques kilomètres de la ruche dans le noir, puis vous déplacez la ruche de quelques mètres, eh bien l'abeille va revenir à l'emplacement initial de la ruche à 1 mètre près. Une performance qui est analogue à celle de nos GPS. Mais comment fait-elle ? Tout d'abord, à partir du moment où il y a un coin de ciel bleu, en analysant la polarisation de la lumière, elle retrouve indirectement la position du soleil à travers les nuages. D'autre part, l'abeille est sensible aux champs électromagnétiques terrestres. Elle embarque donc une espèce de boussole qui lui permet de naviguer. Extraordinaire, non ? Au cours de l'évolution, les abeilles se sont spécialisées dans le butinage. Leur vision est bien différente de la nôtre. Tout d'abord, leurs deux gros yeux sont en réalité une multitude d'yeux qui lui permettent d'avoir une vision moins précise des objets, mais un champ de vision bien plus large. De plus, elles possèdent trois yeux simples sur le haut de la tête qui lui permettent de voir le soleil ou plus exactement les variations de flux lumineux. Cela lui permet ainsi de stabiliser son vol. Pour s'adapter justement à cette vitesse de vol qui est de 30 km/h, les abeilles perçoivent les images à une fréquence de 300 images par seconde contre une vingtaine pour l'homme. Les couleurs perçues par les abeilles sont également différentes des nôtres. Un simple bouton d'or d'un jaune uniforme pour nous sera pour elles une corolle bleu vif avec au centre du violet. Elles perçoivent en fait bien mieux les ultraviolets, ce qui leur permet de mieux distinguer les centres d'intérêt, là où se trouvent le pollen et le nectar. Enfin, les abeilles sont sensibles à la polarisation de la lumière. Quand la lumière se reflète sur une fleur ou passe à travers le ciel, elle se polarise. C'est-à-dire que l'onde lumineuse électromagnétique privilégie une direction pour sa vibration. L'abeille, en analysant cette polarisation, peut retrouver très exactement la position du soleil dans le ciel. Alors, peut-être vous n'êtes pas encore convaincu que l'abeille est très intelligente, car certains nous ont dit que l'intelligence, c'est la communication. Même si la définition est totalement erronée, homocentrée, qu'à cela ne tienne, l'abeille sait utiliser un langage abstrait et complexe, un petit peu comme nous quand on écrit « je veux manger une pomme », c'est abstrait. Lorsque la colonie est à la recherche d'un nouvel habitat, les éclaireuses vont explorer les environs et elles vont découvrir de nouvelles ruches potentielles. En revenant, elles décrivent ce qu'elles ont trouvé, les dimensions, l'orientation, l'isolation, la protection aux intempéries et ainsi de suite. Et encore plus incroyable, les éclaireuses sont nombreuses, elles ont découvert différents endroits et elles les décrivent chacune. Et le groupe va choisir le lieu le plus approprié par consensus, une procédure bien plus élaborée que le vote ou l'imposition d'une majorité. Le consensus est une méthode de prise de décision où, après avoir exprimé des opinions par chacun des parties en présence, le groupe s'efforce de dégager et de recueillir un accord pouvant être présenté comme unanime ou quasi unanime. Pour revenir sur la remarque de l'enfant, une remarque qui d'ailleurs n'est qu'une répétition de celle d'un adulte, l'abeille est intelligente, elle sait faire des choses que nous humains ne savons pas faire. On appelle ce concept la continuité de l'intelligence entre espèces. C'est un concept qui a été développé par différentes recherches au cours du XXe siècle principalement. Chaque espèce est intelligente dans son domaine. Vous écoutez Les Croissants des Croissants. Aujourd'hui, nous nous intéressons au monde fabuleux des abeilles et du miel. Nous avons vu que le comportement des abeilles, le résultat de millions d'années d'évolution, est extraordinaire. Revenons maintenant à la ruche et ce qui s'y passe. Les abeilles sont des animaux sociaux. Au cœur de la colonie, l'acteur principal qui rythme la ruche et son caractère, c'est la reine. Elle développe une phéromone, une sorte de parfum, qui fédère l'identité de la ruche. D'ailleurs, lorsque ce parfum s'estompe, car la reine est trop vieille ou malade, les abeilles se sentent esseulées et vont élever de nouvelles reines. Lorsque les nouvelles reines sont proches d'éclore, les abeilles mettent au régime leur ancienne reine. Celle-ci va perdre du poids et pourra de nouveau voler et emmener avec elle une partie de la colonie. C'est l'essaimage, une manière d'assurer l'expansion de l'espèce. Dans la ruche, la première jeune reine qui éclot va faire le tour de la ruche et tuer toutes les autres reines qui présentent ou éclore. Une fois cela fait, elle s'envolera pour rejoindre une nuée de mâles. Ces mâles se rejoignent quasiment toujours dans des lieux fixes dont les critères ne sont totalement inconnus. S'ensuit une course-poursuite. Seuls les mâles les plus rapides féconderont la jeune reine. Celle-ci stocke les semences et s'en servira pour pondre tout le reste de sa vie. Quant au mâle, il y laisse une partie de ses organes et meurt sur le champ. Revenu à la ruche, la reine va commencer à pondre jusqu'à 2000 œufs par jour au plus haut de sa forme en été. Autour d'elle et sur les rayons à couvain, les nourrices s'activent. Elles nourrissent la reine de gelée royale et s'assurent que les larves puissent aussi se développer. C'est d'ailleurs le premier rôle que prennent les jeunes abeilles durant une poignée de jours, être nourrices. Puis elles vont devenir maçonnes ou architectes. Leurs glandes cireuses s'activent quelques jours, produisent des plaquettes de cire, comme nous d'ailleurs on produit de la cire dans nos oreilles. Une fois mâchées et ramollies, les abeilles déposent ces plaquettes de cire pour construire les alvéoles pendant une grosse semaine. Contrairement à ce qu'on pense de manière générale, les alvéoles sont plutôt rondes et en fait, par la chaleur de la ruche, elles vont se transformer en alvéoles hexagonales. Revenons-en à nos abeilles. Après avoir été architectes, la semaine suivante, elles deviennent manutentionnaires. Elles transportent et stockent les ressources de la ruche. Le miel, mais aussi le pollen. Elles répartissent ainsi les denrées dans des rayons dédiés. Ceux-ci sont plutôt d'ailleurs à l'extérieur de la ruche pour assurer une meilleure isolation de l'intérieur. Et plutôt au fond de la ruche, pour éviter que des abeilles étrangères, mal intentionnées, des voleuses, qui réussiraient à rentrer, puissent subtiliser ce précieux nectar et le pollen et l'emporter dans une autre ruche. Au bout de 2 semaines environ, les abeilles se reconvertissent en ventileuses. Elles régulent en battant des ailes l'hygrométrie et la température de la ruche. Elles peuvent ainsi refroidir, mais aussi chauffer, car battre des ailes, c'est du sport, ça réchauffe. On en a déjà parlé, il faut éviter que des intrus ne s'introduisent dans la ruche, par exemple les abeilles voleuses. L'abeille peut donc devenir ensuite gardienne. À l'entrée de la ruche, elle va identifier les entrants. Comment ? Grâce aux phéromones dont on a parlé tout à l'heure. Le parfum qu'elle détecte avec leurs antennes et dont les substances sont sécrétées notamment par la tête. Et c'est la reine qui impose à toute la colonie le parfum qui caractérise et crée l'unité de l'essaim. Nos abeilles gardiennes, en cas de danger, peuvent utiliser leur dard. Le dard peut émettre également une phéromone. Car si une abeille vient à piquer pour se défendre, elle envoie ainsi un signal d'agressivité à toute la colonie qui se défendra à son tour. Et par instinct, les abeilles vont essayer de piquer l'ours ou tout autre animal, pas très loin de ses yeux, là où ça fait vraiment mal. Au passage, le dard n'est pas la seule arme de l'abeille. Au Japon, les abeilles se défendent contre le frelon asiatique en se jetant tout dessus, en l'entourant et en battant des ailes. Ainsi, la température va augmenter au centre, là où se trouve le frelon, et celui-ci mourra de chaud. Quelques abeilles y laisseront malheureusement leur vie, mais cela est le fruit de millions d'années de développement et de cohabitation entre les espèces. Pour finir sur la vie de notre abeille, elle s'achève en butinant. Pour voler, elle a besoin de beaucoup d'énergie et active inlassablement ses muscles. C'est ce qui va considérablement limiter sa durée de vie. Ainsi, en été, une abeille n'aura plus qu'une vingtaine de jours de vie en tant que butineuse, avant de mourir. Soit, au total, une vingtaine de jours sous forme de larve, puis 30 à 60 jours en tant qu'abeille. Par contre, en hiver, alors que les abeilles ne volent plus, elles peuvent survivre jusqu'à 6 mois. Quant à la reine, elle vivra entre 3 et 5 ans. Nous venons de voir que l'abeille passe par différents stades successifs. Mais en cas d'ALEA, elle peut s'adapter et revenir quelques jours à un autre stade pour faire face à la situation. On parle, mais en fait, comment est fait le miel que nous dégustons ? En butinant, l'abeille aspire avec sa langue le nectar des fleurs. Elle le stocke ensuite dans son jabot. Une fois revenue à la ruche, elle va le recracher puis le passer à une autre abeille qui va l'ingurgiter puis le recracher. En passant ainsi d'abeille en abeille, de bouche en bouche, le nectar se transforme sous l'action des enzymes de leur salive. Constitué principalement de saccharose, l'enzyme va casser cette molécule en deux parties et il s'enrichit ainsi en glucose et en fructose. Une dernière abeille va stocker le nectar dans une alvéole où il va rester quelques jours. Il s'y évapore et mûrir jusqu'à ne contenir que 18% d'eau. Tel de la confiture, il est alors capable de se conserver extrêmement longtemps car très riche en sucre. Les abeilles ferment alors l'opercule de l'alvéole. Elle ne sera rouverte que pour épuiser le précieux nectar en hiver ou en été si un apiculteur passe par là et dérobe le rayon. Car l'apiculteur, du point de vue des abeilles, c'est surtout un voleur. Nous leur prenons leurs réserves durement glanées. Avec le dérèglement climatique et la chute de la biodiversité, la sortie de l'hiver peut être difficile pour les abeilles. Certaines plantes qui les nourrissaient se font de plus en plus rares. Pour éviter les pertes des colonies, il est devenu assez usuel de leur donner du sirop de sucre. Ce qui chagrine certains apiculteurs, car donner du sucre pour, au final, récolter du miel, cela peut être quelque peu déroutant. Notre source de questionnement, c'est quel est le rôle des abeilles dans la biodiversité. Il a été d'usage de dire qu'installer une ruche, c'est bon pour la nature, car l'usage massif des pesticides et autres polluants a réduit de 70% les populations d'insectes en Europe en 50 ans. Sauf que ces insectes nous sont indispensables pour polliniser nos cultures. Cependant, l'homme installe dans un milieu naturel une seule et même espèce, Apis mellifera. Il lui fournit un habitat, il lui donne éventuellement du sucre pour mieux passer l'hiver. Sa favorite va donc sortir de l'hiver bien plus en forme que ses congénères, les abeilles sauvages et les autres pollinisateurs. Le printemps venu, les abeilles sont en pleine forme et se ruent sur les fleurs qui s'ouvrent, ne laissant finalement pas grand-chose aux autres. Plus les ressources sont limitées, plus la compétition est importante. Ceci a donc un impact sur les autres pollinisateurs, mais aussi sur les plantes qu'ils butinent exclusivement, des plantes que les abeilles délaissent. En effet, la population s'amoindrissant, elle n'assure plus la fécondation de certaines plantes. Des études ont montré que la population d'abeilles sauvages et autres pollinisateurs est réduite de 55% dans un rayon de 900 mètres autour de la ruche. D'autres études, finalement très concordantes de ce chiffre-là, montrent que les abeilles sauvages qui butinent dans les 600 mètres autour de la ruche présentent moitié moins de nectar dans leur jabot. Alors, des ruches, c'est bien, mais il n'en faut pas trop. Il faut les espacer. Au vu du rayon d'action des abeilles domestiques, il est notamment préconisé d'espacer les ruchers d'environ 2 à 3 km. Cette distance permettrait de conserver ainsi 53 du territoire hors de l'emprise des colonies d'abeilles domestiques et sanctuariserait ainsi l'espace restant pour les abeilles sauvages. Et oui, tout n'est pas si simple, c'est encore un exemple qu'il faut se prémunir de l'effet de mode. Des abeilles et du miel, oui, mais cela reste un liquide précieux à consommer avec parcimonie. Et plutôt que d'installer des ruches d'abeilles domestiques, on peut aussi installer des hôtels à insectes ou encore mieux, sanctuariser l'environnement pour qu'ils se débrouillent par eux-mêmes. C'était Les Croissants Décroissants, un magazine d'écologie sans chichi. Pour vos avis, commentaires, suggestions, vous pouvez toujours écrire à lescroissantsdécroissants@gmail.com. À la prochaine.
Les faucheurs volontaires emploient les moyens de la désobéissance civique non violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.
L'eau, la terre, l'eau, le jour du dépassement...